Merci de nous rejoindre pour ce point sur l'actualité nationale en français. Il est 18h. Bonsoir, bienvenue au studio Kalangou à la une de ce journal. Environ 300 ménages de retour à Bosso, deux semaines après l'attaque sanglante de cette localité. Un retour dû au rapatriement volontaire des populations et de la distribution de vivres. La prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 15% selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. Les régions de Zinder, Maradi, Difa et Dosso sont les plus touchées. La correction des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC qui a débuté hier se poursuit normalement malgré l'appel au boycott lancé par la convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation, confirmation donnée par le directeur régional de l'enseignement secondaire de Niamey. Enfin, la partie magazine de cette édition sera consacrée aux semences qui s'adaptent au cycle désormais court de la saison des pluies. Pour cela, nous irons à Maradi au centre sémencier de l'Iran. Deux semaines après l'attaque sanglante de la localité de Bosso, la vie répond petit à petit avec le rapatriement volontaire des populations et la distribution de vivres. Selon le maire de la commune de Bosso, Bako Mamadou, plus de 300 ménages ont bénéficié d'aide alimentaire.
Ça fait près d'une semaine, on est là-dessus déjà. Nous avons rapatrié la première vague, donc plus de 300 ménages sont déjà à Bosso. Il y a donc les femmes, les petits-enfants, en tout cas, presque tout le monde est là.
Alors comment ils sont pris en charge là?
Ils sont pris en charge effectivement par l'État d'abord. Déjà nos partenaires aussi sont en train d'envisager. L'État quand même déjà a donné le premier mois. Déjà nous avons distribué hier. Nous avons distribué des vivres, de l'huile, des céréales, même du sucre pour le ramadan.
Par ménage?
Par ménage. C'est une ration d'un mois que nous avons donnée.
Il y a beaucoup qui hésitent à rentrer?
Non, pour le moment, c'est vrai, il y a des gens qui hésitent, mais il n'y a aucun problème. Ça veut dire que déjà, nous avons été là-bas. On est ensemble avec la population. Nos leaders religieux sont déjà là-bas. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, les gens peuvent retourner. Ils sont pris en charge. Chaque fin de mois, donc, l'État donne à ces différents ménages. La vie des Bosso, alhamdoulilah, les boutiques sont ouvertes. Les gens font leur petit commerce. Il y a en tout cas vraiment de l'ambiance là-bas.
Sachez que l'attaque sanglante de la localité de Bosso est intervenue le 3 juin dernier. Propos recueillis par Adam Baboukarna. L'ancien président de la République du Niger, Mamman Ousmane, a créé une nouvelle formation politique au sein de laquelle lui et ses partisans vont désormais militer. Le Rassemblement des démocrates et républicains, RDR, nouveau parti de Mamman Ousmane, a rendu publique sa déclaration constitutive samedi dernier. Aux élections présidentielles et législatives de février passé, Mamman Ousmane était le candidat de MNRD Hankouri et avait réalisé un score de 6,25% des suffrages exprimés. Il siège actuellement à l'Assemblée nationale du Niger en tant que député au nom de Hankouri. Je l'annonçais dans les titres, la prévalence de la malnutrition aiguë globale continue d'osciller autour de 15% au Niger, correspondant au seuil d'urgence fixé par l'OMS, précise le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU OCHA à Niamey. Les régions de Zinder, Maradi, Difa et Dosso sont les plus touchées. Selon Dr Mamman Sani, médecin nutritionniste, plus de 40% des enfants de moins de 5 ans au Niger sont atteints de malnutrition chronique dont les conséquences sont irréversibles. Docteur Mamman Sani nous fait le point sur la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition globale.
Au Niger, le type de malnutrition le plus fréquent, c'est surtout la malnutrition carentielle, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Je dirais depuis pratiquement 2005, elle est devenue un fléau dans beaucoup de régions. Le taux de la malnutrition est effectivement aiguë, surtout sévère et modéré. C'est toujours autour, n'est-ce pas, des seuils d'alerte où ça dépasse même les seuils d'urgence définis par l'OMS. Quand on prend par exemple la malnutrition aiguë sévère, et au Niger actuellement, nous avons des zones où la prévalence prévalence de la malnutrition aiguë sévère est à plus de 6%. Je veux dire 6,7%. Quand vous prenez la région des maladies, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère est à 6,7% pour 2% comme c'est d'urgence définie par l'OMS. Je prends la malnutrition aiguë globale, c'est-à-dire la forme modérée et la forme sévère associée. Et au Niger actuellement, le taux global, nous sommes à 15%. Alors tous les pays sont en urgence en matière effectivement de la malnutrition, n'est-ce pas, chez les enfants de moins de 5 ans.
Nous reviendrons sur cette situation dans l'émission Forum à 18h15 sur Studio Kalungu. Le mot d'ordre de boycott des enseignants contractuels grévistes, la direction régionale de l'enseignement secondaire de Niamey affirme que le mouvement entamé pour des revendications salariales n'est pas suivi. En effet, selon le responsable de cette direction, les examens du BEPC se sont bien passés du déroulement jusqu'à la correction dans l'ensemble de la capitale. Écoutez le directeur régional, Zachary Himma Barkiré. Il explique au micro de Moussa Maman.
On a terminé le vendredi. Ensuite, samedi, les présidents ont procédé à l'anonymat des copies. Et dimanche, hier, beaucoup ont corrigé et les corrections continuent ce matin. Tranquillement, comme on l'avait prévu, donc il n'y a aucun problème.
Tout en sachant que d'autres enseignants ont refusé de venir pour faire les corrections, on peut savoir comment vous avez procédé à avoir des gens qui vont corriger ça?
Jusque-là, je n'ai pas encore découvert que les enseignants aient décidé de ne pas venir faire les corrections, je n'ai pas entendu ça. J'ai fait plusieurs centres hier, mais on n'a pas eu d'écho que des professeurs aient refusé d'aller corriger, on n'a pas eu ça.
Il n'y a pas eu de recrit quelque part pour venir corriger?
C'est un examen. Si vous n'avez pas enseigné le programme, on ne peut pas vous dire de venir corriger. Ça ne se fait pas. C'est amener les enfants à la catastrophe. Donc ceux qui corrigent, ce sont bel et bien les enseignants de la région de Niamey et ceux qui ont tenu ces classes. On espère le résultat d'ici le milieu de la semaine, parce que le second groupe intervient là à partir du 2 juillet. Donc il faut qu'on délibère au plus tard le jeudi.
Propos recueillis par Moussa Maman. Je vous rappelle que la correction des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC a débuté hier à Niamey et se poursuit normalement. Si l'on en croit la direction régionale de l'enseignement secondaire, les correcteurs composés de professeurs ont tous répondu à l'appel des différents centres. Confirmation avec ce qui se passe au centre 1 de Niamey. Adamou Yahya a rencontré le président du jury 1 au centre Garba Djibo de la capitale. Il répond aux questions de Moussa Maman.
Comme prévu, les corrections ont commencé depuis hier. Elles se poursuivent normalement. Les professeurs ont répondu et puis vraiment tout se passe sans problème.
On peut savoir les correcteurs, c'est des professeurs ou bien comment?
C'est bien des professeurs de classe de 3e qui ont été sélectionnés sur le tas. Ça, ce sont les impératifs du métier parce qu'on ne fait corriger que les professeurs qui ont tenu les classes de 3e. Et qui sont des professeurs d'une autre commune. Le premier critère, c'est qu'il faut enseigner en 3e. À ma réunion préparatoire, tous avaient répondu présent. Et aussitôt, donc, les corrections ont commencé. D'ailleurs, elles se poursuivent. Il y a les tout derniers qui sont en train de finaliser. Donc, on pense que d'ici demain, déjà, la tendance sera dégagée.
Avec les boycotts de contractuels, ça n'a pas eu d'impact avec les gens qui corrigent?
Non, je n'en ai pas l'impression. J'avais 21 correcteurs qui étaient convoqués. 20 avaient répondu. Donc, vraiment, je considère que le compte y est.
Un propos recueilli par Moussa Maman. La vente à prix modéré se poursuit dans le reste de la région de Tawa. Cette vente concerne particulièrement le sucre. Le mil dans le sac de 50 kilos se vend à 6 500 francs au lieu de 16 000 francs. Le sac de riz se vend, lui, à 13 000 au lieu de 22 000 sur le marché. En effet, ce programme a été lancé à Bagagichiri le 7 juin passé, au lendemain du début du mois de Ramadan par le gouverneur de la région, Abdurrahman Moussa. Les produits sont vendus aussi bien par sac qu'en détail. Les bénéficiaires de cette vente témoignent de leur satisfaction.
En tant que
citoyen somoin, nous sommes vraiment contents, étant donné que nous connaissons les prix sur le marché qui est de 15 000 à 14 500 francs. Et voilà qu'on l'amène à 6 500 francs les sacs. Donc nous remercions les autorités. Cela veut dire qu'on pense en nous. Nous devons être les premiers à dire que nous avons effectivement bénéficié. Notre appel est que cette initiative continue et que ça ne soit pas en discrimination que chacun arrive à s'en procurer. Alhamdulillah, la vente des céréales se poursuit. Il y a du mil, du sucre et du riz. Et la population vient s'en procurer. Celui qui peut acheter le sac le fait. Pour celui qui ne peut qu'acheter un kilogramme le fait. Chacun selon ses moyens. Nous lançons un appel au gouvernement pour renforcer cette initiative. Surtout pour cette année où on fait face à beaucoup de problèmes, particulièrement l'insuffisance alimentaire, voire même la crise financière qui touche tous les secteurs, et que l'État fasse tout pour apporter les céréales auprès des populations à un prix modéré comme l'année passée.
Propos recueillis par Abdoulaye Aoussouk de Pitawa. Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne aura-t-il un impact réel sur les relations entre l'Afrique et la Grande-Bretagne? Je vous rappelle que vendredi, les électeurs britanniques ont majoritairement demandé par référendum un retrait de leur pays des institutions de l'Union. La question suscite beaucoup de commentaires à Niamey. Selon l'acteur de la société civile Hassan Boukar, dit Abba, beaucoup de choses vont changer dans les relations entre le Royaume-Uni et surtout les pays anglophones d'Afrique.
Et donc, les premières conséquences, pour moi, c'est d'abord pour les Britanniques et les Européens. Pour l'Afrique, est-ce qu'il y a des conséquences? Peut-être oui, parce que c'est quand même une ancienne puissance colonisatrice. On continue à garder des relations avec certaines de ces anciennes colonies, comme le Nigeria, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud ou le Ghana, en tout cas l'Afrique anglophone. Pour ces pays, probablement il peut avoir des conséquences qui peuvent être liées à, par exemple, des accords qui existent entre l'Union européenne et ces pays, accords qui impliqueraient directement donc la Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui que la Grande-Bretagne ne répond plus dans l'Union européenne, est-ce que ces relations vont changer? Est-ce que ces accords vont changer? Les conséquences peuvent être de ce point de vue. Maintenant, l'autre conséquence qui est pour moi la plus importante, sur le continent, on essaie de faire aussi des unions, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, dans d'autres parties de l'Afrique. La plupart de ces unions sont calquées un peu sur l'Union européenne. Ce type d'intégration qui ressemble à l'Union européenne peut aussi vivre les mêmes conséquences que l'Union européenne vit aujourd'hui.
Hassan Boukar Diaba, acteur de la société civile du football à présent, les rencontres entrant dans le cadre de la 21e journée du championnat national première division se sont poursuivies. Hier dimanche, deux matchs ont été joués. Il s'agit de AS Police qui a battu AS Sonidep par 1-0 et match nul 1-1 entre AS GNN et AS Nigelec. Le match en retard entre Akokana et Tagour se joue aujourd'hui à Arlit. Les matchs de la 22e journée de ce championnat débuteront à la fin de cette semaine.
Studio Kalangou.
Les programmes de Studio Kalangou.
À Tawa.
Sur la radio Tambara.
107 FM.
Studio Kalangou.
La partie magazine de cette édition, en 2013, 12% seulement des terres cultivables ont bénéficié de semences améliorées malgré le changement climatique. Pourtant, le fort potentiel de rendement de ces semences devrait encourager les producteurs à aller vers ces produits. Au centre sémencier de INRAN, les techniciens multiplient les recherches pour trouver des semences qui peuvent s'adapter au cycle désormais très court de la saison des pluies. Reportage de notre correspondant à Marathi, Mohamed Maman.
Au temps où encore l'agriculture était rentable, ce sont les semences traditionnelles ou locales qui étaient utilisées par les producteurs. On distingue les semences de mil appelées Zongo ou Henikirei, le Niébé Lakadé et le Sorgho Mota Maradi, entre autres. Ces variétés ont un cycle long. Elles mettent entre 4 à 5 mois pour mûrir. Mais depuis quelques années, avec la faiblesse des rendements due à la rareté de pluie, une nouvelle variété de semences est utilisée progressivement par les producteurs. Ce sont les semences améliorées ou conventionnelles. Présentation de la semence améliorée avec Issa Haruna, responsable de l'unité semencière de l'INRAN de Maradi.
Les semences conventionnelles, c'est des semences qu'on obtient après un croisement. Par exemple, il y a une variété qu'on appelle le P3 Colo, ça c'est le mil. C'est le croisement entre la variété Zongo et la variété Henikirei. Pour mettre au point les variétés conventionnelles, il faut au moins 8 ans. Et ces semences ont de bons rendements. Il y en a qui sont précoces, il y en a qui sont à cycle intermédiaire ou à cycle long.
L'Institut national de recherche agronomique de Maradi dispose d'une unité sémencière où les chercheurs produisent les semences de base appelées G4. Ce sont ces semences qui sont vendues aux producteurs privés de semences pour une production à grande échelle. Abdoulaye Tounaou est le responsable de la ferme semencière Mahaz et une ferme spécialisée dans la production de semences améliorées du mil, sorgho et niébé.
Pour avoir la semence améliorée, d'abord, il faut acheter la G4 qu'on achète auprès de l'INRA, de l'ICRISAT. Une fois cultivée avec toutes les normes respectées, on aboutit à la semence R1 ou R2 pour les revendre à l'État, aux ONG, aux projets qui en font la demande.
Cependant, bien que ces semences soient plus adaptées au changement climatique et aux saisons de plus en plus courtes et donnent des bons rendements, les producteurs ruraux l'utilisent très peu. Issa Haruna de l'INRA croit savoir la raison.
La première raison, c'est que, à un moment donné, il y a beaucoup de partenaires qui appuient ce secteur. Par exemple, la FAO, la SNE et autres. Donc, c'est eux qui appuient beaucoup les paysans. Maintenant, ces partenaires-là, ils se sont retirés. En tout cas, la plupart se sont retirés. Et peut-être aussi, il y a un problème de moyens. Peut-être que les gens n'ont pas les moyens d'aller acheter ces semences.
À l'INRA, les chercheurs qui créent les semences conventionnelles ou améliorées sont appelés sélectionneurs. Avant de mettre au point la variété, ils vérifient d'abord auprès du producteur le type de semences qu'ils désirent avoir. Et cette décision est prise en fonction du type de sol, de la fréquence des pluies et de la résistance aux ennemis de culture. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.
Ainsi prend fin cette édition. Tout de suite, le forum de studio Kalangou présenté par Alassane Kouzi Mamadou.